Diderot sur la diversité de nos jugements. Plus on médite un sujet, plus il s'étend. On trouve que c'est l'histoire de tout ce qu'on a dans la tête et de tout ce qui y manque. Et cela sert d'autant mieux que les idées et les connaissances y sont plus liées. Il part tant de branches, et ces branches vont s'entrelacer à tant d'autres qui appartiennent à des sciences et à des arts divers, qu'il semble que, pour parler pertinemment d'une aiguille, il faudrait posséder la science universelle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne aiguille? Ah, Dieu le sait. Le découragement et les dégoûts nous prennent, et dans l'impossibilité de tout dire, car il faudrait tout savoir, on se tait. Partie dont la paresse naturelle s'accommode fort bien. C'est encore une liaison du moindre objet avec une infinie d'autres qui joue le désordre dans la conversation et rend les disputes interminables et presque inutiles. On passe de l'ouvrier à l'art, de l'art à l'ouvrage, de l'ouvrage à ses formes, des formes aux manœuvres, des manœuvres à la matière. Et quand on en est là, le champ est si vaste qu'on peut se tenir pour perdu. Il n'y a rien ni dans la nature, ni dans l'entendement, où l'on ne puisse être poussé par un antagonisme ignorant ou pointilleux, qui veut être satisfait sur tout. À la fin, on est si bien fourvoyé qu'on aurait peine à revenir sur ses pas et à retrouver la première question. J'en vois tous les jours des exemples. Le vice s'accroît bien davantage par l'amour propre qui s'accroche à tout, par la mauvaise foi qui nous donne le change, et quelquefois par un persiflage cruel qui s'amuse aux dépens de notre tête et de nos poumons. Je connais un de ces discuteurs dont je suis toujours la dupe. Ses paradoxes sont si piquants, il les défend avec tant de chaleur, d'esprit et de vérité, qu'il est impossible de ne s'y pas tromper. On dispute, on s'épuise, et puis on est tout étonné, après des efforts inouïs et longs pour le détromper, de sentir à une pirouette, à un mot plaisant, que cet homme était de votre avis. Soit qu'on parle, soit qu'on écrive, c'est une preuve de bon jugement et d'une logique excellente que de connaître les limites de son sujet et de s'y renfermer. Oh, ce n'est pas qu'un écart me blesse, surtout s'il est rare, s'il est court, et qu'on y montre de la profondeur et de l'originalité. Mais dans la conversation, rien n'est si impertinent que l'affectation d'un scepticisme qui s'étend jusqu'aux premiers axiomes. Rien de si fatigant dans la composition qu'un auteur qui a le nez libertin et qui se met à courir toutes sortes de lièvres. Un inconvénient de celui-ci, c'est de se laisser toujours quelque part échapper un bout d'oreille qui fait rire l'homme instruit sur la terre duquel on chasse, qu'il connaît mieux que vous et que vous battez maladroitement, entraîné par le piège de la contiguïté avec le vôtre. Je suis sûr que si frère Jacques eût traité le jardinage dans toute son étendue, il eût donné sa revanche à plus. Non, je ne vous entends pas. Pluche a écrit le spectacle de la nature. Frère Jacques, jardinier des Chartreux, disait un ouvrage qu'il trouvait admirable, partout excepté sur le jardinage. À cet endroit, elle s'écria « Ah, Pluche, mon ami, tu ne sais pas ce que tu dis. Faites circuler l'ouvrage de Pluche, et chaque partie jugée par un frère Jacques du métier est méprisée. Il s'ensuivra que l'ouvrage sera misérable d'un bout à l'autre. Le pis, c'est que les limites qu'il faut se prescrire, soit dans le monde, soit dans le cabinet, sont difficiles à fixer. Au-delà, vous êtes diffus, en deçà, vous êtes obscur ou peu concluant. Vous supposez votre lecteur ou trop instruit ou trop ignorant. Cependant, à tout prendre, j'aime mieux laisser courir mon homme à toutes jambes que de l'arrêter par une interruption qui le détourne de sa route. J'aime mieux un essai qu'un traité, un essai où l'on me jette quelques idées de génie, presque isolées, qu'un traité où ces germes précieux sont étouffés sous un amas de redites. Mais, soit que l'on converse, soit que l'on écrive, on veut toujours tenir le dé, on veut tenir sa place sur les rayons d'une bibliothèque. On n'a que la valeur d'un bon feuillet dans la tête, me le souffle si bien qu'il résulte un gros livre qui, en passant par les mains du baron de Thun, se réduit à un feuillet. On n'avait qu'une idée, cette idée ne demandait qu'une phrase. Cette phrase pleine de sucre et de sens aurait été goûtée, délayée dans un déluge de mots, elle fatigue, elle ennuie. Mais ces réflexions que vous m'avez promises sur la diversité de nos jugements, oh non, laissons cela. Et pourquoi? Ben, c'est que ce long préambule où je suis tombé moi-même dans la faute pour laquelle je prêche sera déplacé puisqu'il n'y a point de sujet auquel il ne put aller aussi bien, où il faut en faire le sujet principal de notre entretien. Laissons là ce texte inépuisable de nos contradictions, et examinons, puisque mon préambule le veut, comment il faut s'y prendre pour circonscrire un sujet. Tel, par exemple, que celui de la diversité de nos jugements, pourquoi pas, car s'il en est un qui n'est ni rive ni fond, pour celui qui ne veut rien laisser en arrière, c'est celui-là. Mais il est certain que cette diversité a lieu dans tous les hommes et dans toute matière, et que par conséquent, sous ce point de vue général, c'est l'histoire du monde et de la tête de l'homme. Mais quoi, est-ce qu'il faudrait, si l'on commençait par l'homme, le prendre de si bonne heure? Oui, peut-être avant la naissance. Quelle folie! Quelle folie! Qui sait? Quoi donc? Est-ce que l'enfant n'éprouve pas dans le sein de sa mère le froid, le chaud, le plaisir, la douleur, la joie, la tristesse, l'effroi, la santé, la maladie, des désirs? Oui, des désirs! Demandez aux mères. Et ces désirs dont ils mesurent les siens et leur intensité? Si l'on dit qu'ils sont purement automates, je laisse aux théologiens le soin de m'indiquer le moment de la présence de l'âme, et aux philosophes celui du premier instant réfléchi. L'enfant éprouve toutes les sensations de la mère. C'est déjà un être bien modifié, bien disposé, soit pour le bien, soit pour le mal. Plus ses préjugés innés sont automates, plus ils sont durables, violents, ils tiennent à la machine. Mais je prends déjà les choses de trop près. L'organisation est déterminée par quelque chose d'antérieur. N'apporte-t-on pas en naissant des goûts, des aversions? Ne prononce-t-on pas dès le commencement qu'un enfant est glouton, colère, impatient, triste, maussade, gai? L'un, en ouvrant les yeux, pleure. L'autre, à peine le voile de son berceau est-il levé, a-t-il vu la lumière, qu'il sourit, qu'il agite ses petites mains, qu'il tend ses bras à sa nourrice. La confiance de l'enfant dans ses parents qui lui parlent. Sont-ils avares, ses parents? Sont-ils braves? Sont-ils porterons? Leur exemple, leur discours,